nature, gastronomie, pêche, agriculture, c'est Esprit du Sud-Ouest sur France Bleu Gascogne.
Esprit du Sud-Ouest, ce matin, notre invité Baudouin de Serre-Léger. Bonjour Baudouin.
Bonjour.
Ravi d'être avec vous. Alors, on va pas dire que vous êtes un habitué d'Esprit du Sud-Ouest, mais vous êtes déjà venu nous voir à quelques reprises.
Ça devient.
Vous devenez un récurrent, absolument. Vous gérez le site chassom.com. Bon, ben, tout est dit, hein, le site pour les amoureux, les chasseurs, amoureux de toutes les chasses, plein d'infos sur le matériel, plein de petites brèves, une sorte d'AFP pour les chasseurs, avec toutes les infos qui peuvent tomber autour du monde de la chasse. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, alors on parlera d'actualité de chasse dans un petit instant, si vous voulez bien, mais si vous êtes avec nous, c'est parce que vous proposez dans chassom.com des rencontres avec les candidats à la présidentielle, avec la question toute simple: quelle est votre position par rapport à la chasse? Vous essayez d'avoir à peu près tous les candidats, on va dire comme ça, Baudouin, hein.
Alors, on essaye. J'avais déjà initié cette action en 2017,
ouais,
où effectivement j'avais eu 95% des candidats. Et j'ai réinitié cette année de nouveau ces rencontres avec les candidats, avec la petite différence, c'est qu'en 2017, c'était une interview écrite, alors que là, je rencontre directement les candidats pour une interview vidéo, alors qui se fait soit à Paris, soit en dehors de Paris, en fonction des candidats.
Bon, par exemple, j'ai vu celle d'Éric Zemmour où vous êtes dans la forêt. Hein,
À Marly, du côté de Marly-le-Roi, exactement.
Et la dernière en date est sortie vendredi, c'est l'entretien avec Éric Ciotti.
Avec Éric Ciotti, exactement. Et puis la semaine prochaine, nous aurons celui de Valérie Pécresse.
Comment réagissent les candidats? Les candidats, c'est aussi l'entourage, parce que bon, il faut bien s'imaginer qu'on a rarement le 06 direct du candidat pour lui demander s'il a envie de débattre du pour ou contre la chasse. C'est plus l'entourage qui fait la pluie et le beau temps et qui gère l'image du candidat. Comment ça se passe en général? Il y a de longues tractations ou assez rapidement vous avez un avis pour vous dire on fait ça tel jour, telle heure?
En fait, en 2017, j'avais joué la carte suivante. Je disais aux candidats que, en gros, ils pourraient relire l'intégralité de ma rédaction, de l'interview, et que si jamais il y avait des choses qui ne leur plaisaient pas, potentiellement, il était possible de le supprimer. L'objectif de cette interview, c'est de donner la parole sans chercher la petite bête, je dirais. Cet objectif, je dirais que, comme globalement les candidats avaient perçu l'exercice de manière plutôt positive, c'est un petit peu plus facile cette année parce que j'ai déjà des relations avec les différents candidats.
Ouais.
En revanche, je me rends bien compte qu'il y a une différence sur la perception de la chasse entre 2017 et cette année. Il s'est passé quelque chose, on sent que ça devient de plus en plus touchy, et même avec des candidats qui sont plutôt affiliés pro-chasse, on voit qu'ils hésitent, ça hésite un petit peu.
Ils veulent quoi, pas trop afficher, c'est un petit peu comme le candidat qui va voir qui est connu parce qu'il va voir des corridas, mais bon, voilà quoi, je veux pas que ça se sache.
Oui, c'est un peu ça en fait, le problème c'est qu'aujourd'hui avec la chasse, c'est soit vous êtes pour, vous êtes contre, et c'est compliqué d'avoir un entre-deux. Ce qu'a fait, je trouve, plutôt les premiers candidats, et notamment la dernière interview avec Éric Zemmour, qui lui n'était pas chasseur, ne connaissait pas plus que ça la chasse, mais s'était informé. Ce que je trouve intéressant dans cet exercice, c'est que les candidats sont obligés, à minimum, de se prêter au jeu, de comprendre comment fonctionne la chasse française, qui sont les acteurs, pourquoi est-ce qu'il y a des modes de chasse qui ne conviennent pas au grand public, mais ce qui leur permet de comprendre comment ça fonctionne. Et donc ça, c'est intéressant. Par cet exercice, l'objectif, c'est que les candidats puissent un peu réfléchir à ce que font les chasseurs aussi.
Esprit du Sud-Ouest. Chasse, nature, gastronomie, pêche, agriculture. C'est Esprit du Sud-Ouest sur France Bleu Gascogne.
France Inter M.
30, le nouvel album d'Adèle.
Easy, baby. No time to choose what I chose.
Retrouvez 30. Le nouvel album d'Adèle dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, une radio de Radio France.
Les éditions Radio France présentent Femmes puissantes, saison 2, le nouveau livre de Léa Salamé.
On dit qu'elles sont belles, charmantes, intelligentes, parfois dures ou manipulatrices, mais on dit encore trop rarement des femmes qu'elles sont puissantes.
11 nouveaux entretiens pour sortir des tabous.
Qu'elles soient actrices, avocates, médecins, historiennes, écrivaines ou politiques.
Elles explorent leur rapport à la séduction, la maternité, au temps qui passe.
Femmes puissantes, saison 2.
De Léa Salamé, un livre coédité par France Inter.
Notre invité Esprit du Sud-Ouest ce matin, c'est Baudouin de Serre-Léger, responsable du site chassom.com, un site à l'attention des chasseurs et un site où actuellement vous proposez des entrevues vidéo avec les candidats à la présidentielle en leur demandant clairement leur position par rapport à la chasse. J'ai une question d'ailleurs à ce sujet, Baudouin. Moi, j'aimerais savoir si, lorsque vous vous retrouvez devant des candidats qui ne sont pas pro-chasse et qu'ils sortent des arguments arguments parfois erronés. Est-ce que vous vous permettez de les recadrer ou pas du tout ?
Non, justement, l'objectif, c'est vraiment d'avoir leur vision.
Ouais.
Que leur vision, c'est pas de dire j'aime la chasse alors que j'aime pas la chasse. Leur vision, c'est juste de dire si demain ils étaient élus, ce qu'ils feraient ou ce qu'ils ne feraient pas pour la chasse. Et encore une fois, l'objectif, c'est de pas aller piéger. Donc, si demain j'ai un candidat que j'interroge et qui me dit, moi, je suis foncièrement anti-chasse, au moins un, on le saura. Et surtout, ça me permettra de lui poser la question. Très bien, suspendons la chasse, mais qu'est-ce que vous faites en face ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que il y a quelques candidats avec lesquels, d'ailleurs, j'ai plus de difficultés à essayer d'entrevoir des rendez-vous, qui sont pour suspendre un certain nombre de choses dans la chasse. Mmh. Mais en revanche, lorsqu'il s'agit de donner des réponses concrètes en face, en fait, on n'en a pas. Donc c'est ça qui est, je trouve, intéressant.
Ces entretiens, c'est vraiment pour dire, sans donner de nom, mais c'est vraiment pour dire, amis chasseurs, allez voir ce qui se passe sur chassom.com et avant de mettre votre bulletin, essayez de voir un petit peu à qui vous allez donner votre voix, c'est ça ?
Ah mais évidemment, c'est l'objectif, et c'est vrai que c'est intéressant parce que je vois au gré des commentaires des différentes interviews que des gens qui sont chasseurs se disent « Tiens, je ne pensais pas que ce candidat, il aurait cette position. » Et même à l'inverse, des gens qui ne sont pas chasseurs, qui vont voir l'interview et qui vont se dire « Tiens, c'est marrant, je ne le voyais pas comme ça. » L'entretien que nous avons, que j'essaye d'avoir avec les candidats, je veux que ça soit un entretien complètement naturel. L'objectif, c'est de se retrouver dans la même position que lorsque les candidats sont sur des plateaux et sont un peu assaillis de questions tout le temps. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir le candidat au naturel. Un peu comme à la chasse, finalement.
Si certains candidats hésitent soit à s'afficher pro-chasse, soit à dire je suis contre la chasse, c'est parce que vous pensez qu'il y a un réel poids du bulletin chasseur à l'issue des scrutins, Baudouin ?
Oui, bien sûr qu'il y a un poids. Et c'est pour ça, si on regarde depuis 3 semaines sur Google et qu'on s'amuse à taper le mot-clé chasse, c'est hallucinant le nombre de papiers qui ont pu sortir sur ce thème, notamment parce qu'un certain nombre d'acteurs politiques en ont beaucoup parlé. Alors, il y a eu malheureusement aussi pour nous 2 accidents de chasse,
ouais.
Mais tout ça mêlé, les candidats se rendent bien compte que les chasseurs qui sont un petit peu plus d'un million représentent des voix, mais au-delà des chasseurs, il y a ceux qui ne pratiquent plus mais qui ont toujours un permis, il y a la famille, il y a les amis, et donc c'est une puissance électorale potentielle. C'est pour ça que, malgré tout, ils se disent il faut quand même que j'essaie de leur parler, parce que c'est important pour eux.
Bon, prochain tournage de vidéo, prochain entretien, donc Valérie Pécresse, et qui devrait sortir courant de la semaine à venir, là.
Exactement, c'est ça. Bah, disons que oui, là, comme les Républicains, tout ça se termine pour eux. Le 4 décembre, là, on a essayé de presser pour avoir leur réaction et puis ce qui me permettra ensuite de pouvoir continuer l'ensemble des candidats.
France Bleu Gascogne.
afraid of the idea of facing the day. I would rather stay home on my own, drink it all away. Please stop calling me. It's exhausting, there's really nothing left to say. I created this storm, it's only fair I have to say.
Sud-Ouest avec notre invité ce matin, Baudouin de Saint-Léger, responsable du site chassomme.com, un site à l'attention donc de tous les chasseurs de France et d'ailleurs. Ce mois-ci, vous proposez un dossier sur la suppression de la chasse le week-end, week-end et vacances. Ces propositions, on les doit à Yannick Jadot, candidat et écolo à la présidentielle. Vous faites tout un dossier, c'est argumenté et vous allez au-delà de l'idée qui dit, ah ben oui, mais si on ne peut plus chasser le week-end, à part les retraités, qui va chasser ? Le gars qui est en activité ne pourra plus chasser. Mais justement, vous balayez très vite cet argument parce que vous dites, bon, c'est peut-être un petit peu trop léger. Ça va plus loin, ce que vous faites par rapport à cette idée, de cette proposition de Yannick Jadot. Hein.
Bah, oui, parce qu'en fait, je vais peut-être surprendre quelques personnes qui les écoutent, mais en fait, c'est déjà le cas. Parce que si vous allez vous promener demain dans un territoire, un domaine, une forêt publique,
ouais.
Donc c'est ce qu'on appelle une forêt domaniale. Et dans les forêts domaniales, la chasse ne se pratique pas les mercredis, les jours fériés, le week-end et les vacances. Les chasses ont lieu uniquement les autres jours en semaine. Ça veut dire très concrètement qu'il ne peut pas y avoir d'accident de chasse sur un domaine public le week-end, le mercredi ou pendant les vacances. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de dire que en France, vous avez 85% de la forêt qui est privée. Ça veut dire que une personne qui est chez elle a le droit de chasser, entre guillemets, quand elle veut, elle est chez elle.
Ouais.
Mais vous, si demain, vous allez vous promener, vous allez pas aller chez votre voisin que vous connaissez à peine, sur son champ, dans sa forêt, sans lui poser la question. Donc en fait, là où l'argument est entre guillemets stupide, c'est que aujourd'hui en France, vous n'avez pas de possibilité de pouvoir être blessé par une arme à feu si vous vous promenez dans une forêt publique le mercredi, le week-end ou pendant les vacances. Et là, l'autre point quand même qui est malgré tout important. Je pense que les statistiques elles ont été énumérées maintes et maintes fois dans la presse et à la télévision pour dire que il y a de moins en moins d'accidents de chasse en France. et surtout pour dire que dans 90% des cas, ce sont les chasseurs qui se tuent entre eux. Mais en fait, il suffit qu'il y ait un accident par an avec un non-chasseur pour qu'on remette sur la table, en fait, l'intégralité du dossier. Mais demain, si on devait suspendre, entre guillemets, la chasse le week-end, la chasse le mercredi pendant les vacances, ça ne changerait pas le fait d'avoir un accident. Donc en fait, ce serait une mesure qui servirait juste à dire, eh ben, on va suspendre la chasse. C'est plutôt ça, en fait.
Oui, c'est plus un effet d'annonce pour brosser dans le sens du poil les antichasses, quoi, en gros.
Bah, exactement, parce qu'encore une fois, j'espère pouvoir les rencontrer, mais lorsque Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon veulent mettre en place ces réformes, moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'ils me disent et qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils feront demain, s'ils étaient élus, pour remplacer les chasseurs. Le grand truc, c'est de dire « Ah, il faut faire comme le canton de Genève ». Oui, oui, le canton de Genève, qui est quelques milliers d'hectares. Je me suis amusé à faire le calcul, parce qu'en fait, ils payent des personnes là-bas qui vont tirer les animaux la nuit. Donc en fait, ils payent une vingtaine, 20-25 fonctionnaires, et ce qui coûte en gros à peu près un million d'euros par an. Donc à l'échelle du canton de Genève, quelques milliers d'hectares. Si vous faites ça en fait sur une échelle nationale, c'est plusieurs milliards d'euros.
Oui, bien sûr.
Donc en fait, c'est pour ça que malheureusement, c'est des faits d'annonce. Et puis c'est vrai que bah, comme ce sont des hommes politiques, et bah, y a un certain nombre de personnes bah, qui vont croire ce qu'ils racontent.